Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres, qui est elle-même sur le site radioalpa.com. Dans la série, on n'a pas trop de temps à perdre, on aurait pu vous parler de la COP29, décevante 10, ceux qui en attendaient quelque chose. Voilà. On aurait pu vous parler du cancer. Ça commence bien.
Quand on est parent, on veut toujours protéger ses enfants, évidemment. Mais on ne sait pas toujours très bien comment.
En tout cas, pour les protéger des cancers HPV, c'est simple. On peut les faire vacciner chez un médecin, un pharmacien, une sage-femme, un infirmier ou dans un centre de vaccination. La vaccination est recommandée pour les filles et les garçons dès 11 ans. Et désormais, elle est proposée gratuitement dans les collèges aux élèves de 5e.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Vous voyez, c'est officiel, hein. Voilà le message que l'on peut entendre sur les radios périphériques, ou pas d'ailleurs. Vous avez bien entendu, contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est le ministère de la Santé qui le dit. Par ce message, il encourage les parents à faire vacciner leurs enfants. Bon, voilà, on est pour, on est contre, c'est pas le problème. Cependant, il n'existe pas de vaccin contre les cancers environnementaux. Des cancers liés à notre environnement. Une partie de notre environnement se compose de l'air que l'on respire. Les parents ne pourront pas faire vacciner leurs enfants contre les poussières minuscules qui encombrent l'air et sont considérées comme cancérogène par les autorités sanitaires comme le CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer, qui travaille pour l'Organisation Mondiale de la Santé, un petit bout de l'ONU. Des poussières qui émanent par exemple de la combustion du gazoil des moteurs diesel. Et pourtant, les autorités qui sont censées nous représenter pour notre bien n'ont jamais interdit ou même différé la production de moteurs diesel. L'État n'a jamais non plus mis un terme au travail salarié. Là, il va loin. Eh ben non, parce que d'après l'enquête Sumer 2017, une enquête officielle qui cherche à savoir ce que subissent les travailleurs ayeuses, ce qu'endure la main-d'œuvre, eh bien cette enquête montre que plus de 2,5 millions de salariés sont exposés à au moins un produit chimique classé comme cancérogène la semaine précédant leur réponse à l'enquête, ce qui donne à peu près un salarié sur 10. On n'a pas de chiffres pour les indépendants. Des produits cancérogènes comme le formaldéhyde, le fameux formol, qui peut tuer les embaumeurs comme les vétérinaires ou les salariés de la chimie ou les producteurs de médicaments. Ou même les agriculteurs, puisqu'on retrouve ça dans un certain nombre de produits qu'ils utilisent. Je dis peu, parce que toutes les personnes atteintes d'un cancer n'en meurent pas. Mais les chiffres de personnes touchées bondissent. En France, entre 1990 et 2023, les cas connus de cancer ont été multipliés par 2, passant de environ 215 000 cas à 430 000. Et sur ces 430 000 cas, eh bien, il y a eu 160 000 morts. Et selon Santé publique France, là aussi, on est dans l'officiel, sur les 430 000 cas de cancer, il y a entre 20 000 et 35 000, entre 4,5 et 8 % qui sont attribuables à des expositions professionnelles. Alors là, on va pas vous donner un chiffre de mort, on aurait pu faire le calcul, mais quels sont les produits, quels sont les cancers que ça entraîne, parce qu'on ne survit pas à n'importe quel cancer. Il y en a certains sur lesquels une personne sur 10 va survivre, et puis pour d'autres, c'est 9 personnes. Sur 10. Donc comme quoi, il y a du traitement. Mais bon, ce serait mieux s'il n'y avait pas de cancer, quand même. Ou en tout cas, un petit peu moins. Les cancers liés à des expositions professionnelles, 20 000 à 35 000 cas par an. C'est quand même pas mal. Peut-être qu'on pourrait les éviter, cela. Peut-être qu'on pourrait aussi éviter les cancers liés à notre environnement qui se dégrade, à ce qu'on nous fait bouffer. Ah oui, mais attendez, faut être un petit peu sérieux aussi. Les produits ultra transformés, on sait très bien que ce qui est à l'intérieur, ça ressemble plus à de l'additif et à de la flotte, avec un petit peu de couleur pour faire plaisir, qu'à de la nutrition. Donc, Santé publique France nous indique que les cancers liés aux expositions professionnelles restent largement sous-reconnus et sous indemnisés. Ah, alors c'est peut-être pas 20 000 à 35 000, c'est peut-être un tout petit peu plus. Alors les parents, si vous voulez protéger vos enfants, eh ben vous savez comment? Empêchez-les de faire partie des 10%, et peut-être que c'est plus, d'après ce que nous dit Santé publique France, des travailleurs exposés aux produits cancérogènes. Est-ce pas moi qui le dis, c'est le ministère. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ben oui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Contre tous les cancers, et là c'est moi qui ajoute, n'oublions pas que... le travail tue. Il faut vraiment qu'on s'organise pour ne pas perdre nos vies à les gagner. On aurait pu vous parler du 49-3 qui se profile pour le vote du budget. Là, ce serait pour le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. L'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution amène presque à chaque fois le dépôt d'une motion de censure par l'opposition. Et ce coup-ci, les oppositions sont nombreuses puisque le gouvernement rassemble des membres de Renaissance, le parti ex-Emmanuel Macron, de Horizon, de Édouard Philippe, le modem du repris de justice François Bayrou, des républicains, ah bah là c'est du Wauquiez et compagnie, eh, vous voyez, que du beau monde. En clair, la droite libérale, qui a un peu plus de 200 députés. Alors il en reste plus de 350 qui ne sont pas de ce gouvernement. Largement de quoi faire une majorité. Bon, malheureusement, avec l'association avec l'extrême droite. Mais les grandes manœuvres vont bon train. Alors tout d'abord, la peur, hein, la peur. Les discours de Michel Barnier sur le catastrophisme, la catastrophe économique annoncée en cas de démission forcée de son gouvernement rappellent un tout petit peu les discours des partisans du oui au référendum de 2005 sur la constitution de l'Union européenne, qui inscrivait dans le marbre, entre autres, un modèle économique libéral pour l'Union européenne. Les plus jeunes des auditeurs n'ont pas connu ce moment d'effroi qui a saisi les éditorialistes alliés à toute la droite libérale quand les sondages commençaient à donner le nom gagnant. Il me semble que nous sommes dans un moment similaire, du moins dans la propagande des dirigeants. Au-delà de la propagande, les dirigeants actuels donnent aussi le plus de gages possible à l'extrême droite, comme l'annonce de la non-augmentation des tarifs de l'électricité. Et puis plein d'autres choses. Hein. Il semblerait que... Monsieur Michel Barnier a annoncé qu'on dépensait trop pour soigner les migrants sans papier. Oui, oui, Michel Barnier. Vous savez, le mec sage, un petit peu vieux, qui nous raconte exactement comment nous devons gérer le territoire, eh bien, il est d'extrême droite, en tout cas dans ses paroles. C'est-à-dire qu'il faut faire le tri entre les gens. Il y a des gens qu'on soigne et puis il y en a d'autres qu'on soigne pas. Voilà, c'est ça l'humanisme de la droite libérale. Au-delà de cette propagande, donc, il y a les gages pour l'extrême droite. Mais il faut dire quand même que l'extrême droite et l'égoïsme libéral ont plus de points communs que de différences. Tiens, mais par exemple, la hiérarchie sociale pour les uns, la hiérarchie des races pour les autres. C'est largement compatible. Mais Marine Le Pen fait durer le suspense. Ah ben, il faudrait quand même pas que ça se voit trop que la droite libérale gouverne depuis fin septembre avec le Rassemblement National qui est lui-même libéral. Même s'il se fait passer pour un parti qui défend le peuple. Les textes sont au Sénat à propos du budget de l'État qui doit voter pour ce budget aux environs du 12 décembre. Le feuilleton continue cette semaine, un petit bout du budget, le budget de la sécurité sociale. Ça passe, ça casse, on verra bien. On aurait pu vous parler des brutes qui alimentent la machine à amendement pour empêcher un vote sur l'abrogation de la réforme de la retraite passée en 49.3 en 2023. Eh ben, ils ont réussi. Il restait plus de 600 amendements à minuit quand la niche parlementaire de la France insoumise s'est terminée. Encore un exemple que la démocratie représentative n'est pas vraiment un système démocratique. Un syndicaliste retraité de l'Union locale CGT de Nancy a adressé une lettre ouverte à trois députés qui à eux seuls ont déposé plus de 150 amendements pour éviter un vote. Alors Marc Fesneau, ancien ministre de l'Agriculture et Modem, Prisca Thévenot qui fait partie de Renaissance et Nathalie Collin-Osterlé, la locale de l'étape, puisqu'elle est députée dans la région de Nancy. La prochaine fois que vous entendez parler de ces, que vous entendez ces gens parler, n'oubliez pas quelles sont leurs positions vis-à-vis des ressources humaines. À noter que les modems ont été particulièrement prolixes et que les députés sartois Jean-Carl Grelier et Éric Martineau ont co-signé 190 amendements, dont plus de 30 rien que sur le titre. On discute du titre et pendant ce temps-là, eh ben la loi, elle va pas passer. Pour ceux qui croyaient que le centre-droit voulait mettre du social dans le libéralisme, maintenant c'est loupé. Hein. La prochaine fois que vous les voyez, puisqu'ils sont dans le coin, hein, Jean-Carl Grelier et Éric Martineau, députés de la Sarthe, demandez-leur pourquoi ils traitent ainsi les ressources humaines. Tiens, ça fait deux fois que je dis ils traitent ainsi les ressources humaines. N'oublions pas quand même qu'au moment où il y a eu la réforme pour faire passer de 62 ans l'âge légal de... départ à la retraite à 64 ans, eh bien, un document était passé dans Libération, sourcé par INSEE. Ah, l'INSEE, on ne peut pas dire non plus que ce sont d'affreux gauchistes. Non, non, le but de l'INSEE est de fournir des statistiques nationales sur lesquelles on peut avoir un minimum confiance. Eh bien, l'idée, c'était de voir la part des survivants par âge et par niveau de vie. Eh bien, 75% des plus pauvres sont encore en vie à 62 ans. Ça veut dire que 25% sont déjà morts. Et quand on passe à 64 ans, ben c'est un tout petit peu plus. Et devinez pour les plus riches. Eh bien, parmi les plus riches, 5% des plus riches sont morts à l'âge de 62 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on survit largement mieux quand on est plus riche. Pourquoi? La qualité de vie, le niveau de vie, on peut se soigner, payer des dépassements d'honoraires. Et puis peut-être que dans les boulots que l'on fait, on est moins exposé aux produits cancérogènes dont on parlait. On est moins exposé aux accidents comme sur les chantiers, un mort par jour quand même, etc. etc. Donc, monter, augmenter l'âge de la retraite, ça veut dire qu'il y aura encore plus de personnes parmi les plus pauvres qui seront mortes à l'âge de 64 ans. Voilà comment nos députés, les députés dont j'ai parlé, traitent les ressources humaines. Pas besoin de leur payer de retraite ? Eh, c'est toujours ça de gagner. Donc si vous les croisez, posez-leur la question. Comment ça se fait qu'ils traitent comme ça des êtres humains qu'ils prennent pour des ressources humaines ? On aurait pu vous parler également des entrepôts géants qui s'installent un petit peu partout en France au détriment des terres agricoles. Et du coup, comme on a un jingle, je propose qu'on le mette.
J'attends, mais ça devient insupportable, je deviens fou.
Ah, ça ne doit pas être facile de supporter les bip 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 à longueur de journée et la voix robotique qui vous dit « allez chercher ça là, allez chercher ça là, allez chercher ça là ». Vous avez déjà entendu parler de l'autoroute A69 et des combats contre elle, une autoroute entre Toulouse et Castres. D'aucuns affirment que cette autoroute est surtout nécessaire pour désenclaver les laboratoires Pierre Fabre plutôt que la ville de Castres. La commune de Muret est sur le trajet de cette A69 et c'est là que les laboratoires Pierre Fabre vont implanter une nouvelle plateforme logistique géante, 73 000 mètres carrés d'entrepôt, 7,3 hectares sur une parcelle de 20 hectares de terres arables, bien sûr. Dans le Sud-Sarthe, il existe aussi un projet à ajouter à ceux déjà présents une zone d'activité qui s'appelle West Park, un parc d'activité économique, mais pas que. Non, il y a aussi un petit endroit où on peut se promener, tout ça, c'est super. Dont les travaux de la 7e tranche se terminaient en octobre. West Park devrait accueillir un autre entrepôt et nous, eh bien, en septembre dernier, nous avions rencontré un opposant à l'implantation des deux entrepôts qui sont prévus dans cet endroit. Il nous en dit plus.
Que se passe-t-il à Louaille à propos d'entrepôts géants ?
On nomme la commune de Louaille, mais c'est sur une zone qui s'appelle West Park, située à côté d'un échangeur entre Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Et c'est une zone qui existe depuis les années 90 et qui accueille différentes entreprises, dont déjà un entrepôt de 35 000 m² environ. Et aujourd'hui, les élus donc, du syndicat qui gère cette zone-là ont passé deux compromis de vente auprès de deux porteurs de projets pour deux nouveaux entrepôts géants.
Qu'est-ce qui va être mis dans ce genre d'entrepôt ?
Alors, c'est l'éternelle question, ces entrepôts qu'on appelle les entrepôts en blanc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont personne à mettre dedans. Ils ont obtenu leur permis de construire, mais avant même le permis de construire, on pouvait voir sur Internet des annonces avec un prix au mètre carré de location de ces entrepôts-là. Et le premier entrepôt donc existant, il a mis plus de 10 ans pour être rempli. Il y avait 4 cellules sur cet entrepôt-là. La dernière cellule vient d'être occupée depuis quelques années. Donc ils ont mis plus de 10 ans pour le remplir. Et voilà, on a deux nouveaux projets qui se profilent, sachant que ces deux projets-là sont plus grands que celui qui existe.
Alors, quelles seraient les implications, les conséquences de l'implantation de ces deux entrepôts ?
Alors moi, j'en vois deux importants, même si les conséquences sont multiples. Le premier élément, c'est que les élus nous disent que cette zone-là, elle est classée en tant que zone artisanale. Et non pas en zone agricole, alors qu'il faut faire la distinction entre ce qui est classé en termes de documents d'urbanisme et l'usage réel. Ce sont des terres agricoles, des terres nourricières. Il y avait encore du blé sur un des deux terrains l'année dernière. C'est une confiscation des terres et une détérioration du vivant sur toutes ces terres-là. C'est également un accaparement finalement de ces terres-là, puisqu'on va vers la zéro artificialisation nette des sols. Donc une précipitation des porteurs de projets pour s'accaparer ces terres-là, pour être certain d'être servi finalement. Et ils déposent des projets comme ça pour pouvoir, dans les 10-20 ans, être finalement les rois des possesseurs de terres. Et puis le deuxième élément en termes de conséquences, c'est la destruction d'emplois, de proximité, de l'emploi de qualité, l'emploi de lien social. Il y a plusieurs études qui ont été sorties, dont une des Amis de la Terre qui a été considérée comme une étude sérieuse, notamment par des magazines, pas forcément du bord, qui décrivait que pour un emploi précaire créé dans ces entrepôts-là, il y avait un équivalent de 2 à 6 emplois détruits, des emplois de proximité et de qualité. Lorsqu'on a indiqué ces éléments-là au niveau de l'enquête publique, le préfet a interrogé le porteur de projet et il a répondu sur cet argument-là. Enfin, on est tombé des nues qu'on ne pouvait pas faire un lien direct géographiquement entre une création d'entrepôts à Sablé et la destruction de deux emplois sur Sablé. Mais en fait, non, ils sont répartis sur l'ensemble. On ne va pas commencer à faire de la concurrence entre territoires, quoi. Puis le préfet a laissé passer ça parce que le but, c'était probablement juste de nous répondre, quoi.
Donc l'enquête d'utilité publique a admis que c'était véritablement d'utilité publique, ce genre d'entrepôt ?
Oui, enfin en tout cas de leur vision de l'utilité publique, même si c'est destructeur d'un tas de choses qu'on vient d'évoquer. Et à partir du moment où ça respecte une forme de procédure juridique, ils vont au bout du projet sans forcément prendre de recul, sans jamais prendre de recul sur des situations comme ça, et de s'interroger sur le nombre d'hectares accaparés par ces entrepôts. On pourrait mettre un tas de petits artisans, de petits commerçants, sachant que nous, de notre côté, on a bien conscience que des entrepôts logistiques, notamment pour les petites entreprises, c'est nécessaire parce qu'ils ont besoin de déposer leur stock, quelque chose. Mais là, on parle vraiment d'entrepôts géants. Hein. Sur les deux entrepôts, le plus grand, il fait 350 mètres de long, 130 mètres de large et 13,7 mètres de haut. Voilà, donc ça équivaut sur uniquement ce terrain-là, en fonction de la grandeur des terrains de foot, mais entre 7 et 10 terrains de foot, construits deux bâtiments. Ce n'est pas la superficie du terrain qu'ils achètent, c'est la superficie bâtie sur laquelle on va construire.
Que faites-vous, vous, contre l'implantation de ces deux entrepôts ?
On a déposé un recours gracieux auprès de la commune de Loailles. On nous a répondu gentiment que cette zone-là était classée en tant que zone artisanale et que l'objectif primaire dans les années 90, c'était de la remplir et que l'objectif aujourd'hui, c'était de la remplir. Ce à quoi on a indiqué que ce n'est pas parce qu'on a un projet à 40 ans pour faire un marathon, si on met 30 ans pour faire son sac, peut-être qu'il faut à un moment donné revoir ses ambitions de façon différente, pas forcément à la baisse, mais simplement de façon différente. Quoi.
Et donc à part ce recours gracieux, est-ce que vous êtes allé plus loin ?
Alors le recours juridique, on n'est pas allé jusque-là, ça demande une énergie collective et un savoir-faire juridique pointu et détaillé. On n'est pas aujourd'hui équipé pour ça, mais ce n'est pas exclu qu'un jour on ira jusqu'au recours judiciaire ou administratif.
Si on veut vous contacter, comment on fait ?
Alors on est un collectif hein, réparti sur l'ensemble du département. Donc il y a un site internet, hein, stopamazon.fr, où on trouve toutes les informations. Puis après ça rediffuse au niveau local si on veut s'impliquer, que ce soit sur Loailles, Écomois, Chéréo ou Tranger. En passant par ce biais-là, on est sûr de nous contacter.
Sûr de les contacter, du coup, pour le contact, c'est stopamazon.fr, tout attaché, stopamazon.fr. Et pour tous ceux qui voudraient faire quelque chose contre la plantation des entrepôts géants, je crois qu'on l'a déjà dit, petit rappel, lutter d'abord contre sa consommation personnelle de produits livrés à domicile, parce que, comme disait l'autre...
Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas...
Ah ouais, ce serait pas mal quand même. On aurait pu vous parler de Christelle Morançais, mais qui est-ce ? Eh bien, c'est la présidente de la région. Les courriers annonçant les coupes franches dans les budgets des associations culturelles, sociales, de défense commencent à tomber. La presse s'en fait déjà l'écho et nos camarades de Frama, de la radio Ornithorynque à Bouloire, ont déjà eu la leur. Oui, la Frama, c'est la fédération des radios associatives, mais n'en joue. Et du coup, ils ont déjà eu la leur sur laquelle on peut lire, si j'arrive à la retrouver. Alors, madame, monsieur, blablabla, blablabla, c'est la direction culture, sport et association, dossier suivi par le service culture, avec des jolies références. Notre pays traverse un petit paragraphe pour dire que c'est une catastrophe. Le deuxième. Le gouvernement est confronté à un niveau de déficit insoutenable qu'il doit contenir d'urgence. Un prélèvement sur les moyens des collectivités locales a été décidé. Il se chiffre à un effort de 40 millions d'euros pour la région en 2025. Bon, alors de fait, ça veut dire que la région va devoir faire environ 28 millions d'économies et il y a 12 millions qui ne seront pas versés par l'État. Ouais, d'accord, on est sur 40. À cette première restriction budgétaire s'en ajoute une deuxième. Allons bon, les recettes de la région qui sont indexées sur la consommation française reculent brutalement. Je comprends rien là. Nous sommes dans l'obligation de réduire nos dépenses de 100 millions d'euros. Et voilà comment on essaye de faire passer la pilule. De fait, les 100 millions d'euros, ça va se faire sur la culture. En fait, non. La présidente de la région des Pays de la Loire se targue d'aller plus loin que les demandes de nos soi-disant dirigeants de droite libérale au pouvoir. Et là, dans le document officiel envoyé à Ornito, on peut lire « Nous sommes dans l'obligation de... » Une réécriture de l'histoire, mais peut-être un signe que la décision est de moins en moins assumée. Dans la Sarthe, comme dans le reste de la région, les acteurs de la culture, mais aussi du social, mais aussi du sport amateur, etc., se mobilisent. Ils étaient encore vendredi... 29 au plongeoir pour une assemblée générale.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le...
Eh ben aujourd'hui, le A. Oui, j'ai oublié de mettre le A. Le A comme assemblée. Qu'est-ce que cela est-il donc, s'il y avait une assemblée générale des acteurs de la culture, du social, etc., le vendredi 29 au plongeoir, pour essayer de s'organiser à propos des lubies de Madame Morancet qui cherche une carrière ? Assemblée, c'est une réunion ouverte et sans chef pour discuter et s'informer de choses qui concernent le groupe. L'assemblée peut aussi servir à prendre des décisions et trouver des solutions ensemble pour régler des problèmes. Des assemblées peuvent être créées partout, dans ta classe, à la garderie, dans la rue, dans ta petite cabane, à la maison, etc. Ah ben oui, en effet, c'est partout. Si vous voulez avoir des nouvelles, allez voir sur convergence-72.fr et retrouvez les mobilisés du secteur le 5 décembre dans la rue aux côtés des défenseurs des services publics. Au Mans, le rendez-vous aura lieu à 13h30 au Jacobin. Mais finalement, on a préféré vous parler d'économie circulaire. En ce moment, à la Fabrique Rêve de Ville, ont lieu les semaines de l'économie circulaire. La Fabrique Rêve de Ville est située boulevard Anatole France, tout près de l'île aux planches. C'est un lieu appartenant à Le Mans Métropole, la communauté de communes qui inclut la ville du Mans. Sur le site internet, le lieu est présenté comme suit. La Fabrique Rêve de Ville est un lieu d'information et d'échange autour de thèmes qui touchent à la transformation du territoire comme l'architecture, l'urbanisme, le développement durable et le paysage. C'est pourquoi on y trouve les semaines de l'économie circulaire avec des animations, expositions qui courent jusqu'au 14 décembre. Mardi 26 novembre, c'était Papotage, une conférence-discussion avec des acteurs de terrain. Le directeur d'Envie 72, une société de l'économie sociale et solidaire, qui fait dans l'électroménager et le vélo, réparation, etc. La directrice d'Equana, qui fait dans le zéro déchet notamment, et Mathieu Durand, qui se présente d'ailleurs très bien lui-même.
Mathieu Durand, professeur à l'Université du Mans, professeur en géographie et urbanisme et spécialiste de la rudologie, donc de cette approche systémique des déchets.
Un géographe rudologue, donc la rudologie étant l'étude des déchets et des lieux déclassés, une matière inventée dans les années 1970 par un géographe du coin, Jean Gouillet, professeur à l'Université du Maine, c'était le nom à l'époque, toute neuve à l'époque. Cette rencontre avec Mathieu Durand nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'économie circulaire, un modèle économique qui a pour but de rompre avec l'économie linéaire, mais qui pourrait très bien servir d'alibi aux industriels et tenants de la société de consommation pour durer. Alors en premier lieu, nous avons demandé à Mathieu Durand de nous présenter le concept.
Vous êtes aujourd'hui à la Fabrique Rêve de Ville pour parler d'économie circulaire. Alors est-ce qu'on peut essayer de définir cette économie, une économie circulaire ?
Oui, une économie circulaire, c'est une notion qui a été développée il y a une quinzaine d'années maintenant, mais qui, contrairement à ce que dit son nom, c'est pas à la base un modèle économique, c'est plutôt un modèle de circularisation de la matière. C'est la volonté de faire en sorte que la matière ait un mouvement qui soit cyclique, un peu comme les cycles naturels, et d'organiser la matière qu'on consomme, le bois, le plastique, les métaux, de façon circulaire. Et ensuite, il y a l'idée d'ajouter un modèle économique pour faire en sorte que cette circularisation de la matière soit possible, soit équilibré au niveau économique, d'où l'idée d'économie circulaire.
Donc faire tourner, entre guillemets, les matières premières avec l'idée d'en dépenser le moins possible parce qu'on va en réutiliser le plus possible.
C'est ça, en effet, l'objectif de base, c'est ça, c'est de limiter l'extraction de ressources naturelles dans les milieux naturels, de limiter les rejets de déchets qui peuvent également amener des problèmes de contamination, et du coup, de réutiliser, de réemployer, de recycler. Alors, il y a des choses différentes derrière tous ces mots-là, la matière.
C'est vrai que quand on parle d'économie circulaire ou de circularisation de la matière, il y a beaucoup de mots en « re ». Est-ce que c'était quelque chose qui existait auparavant, avant que l'économie linéaire, c'est-à-dire on extrait, on consomme et ensuite on rejette, avant cette économie linéaire, qui est essentiellement basée sur le gaspillage, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'il existait déjà des réemplois, du recyclage ?
Oui, et finalement, l'économie linéaire, c'est presque une exception dans l'histoire, puisqu'elle a existé à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais avant les révolutions industrielles, on était dans une économie beaucoup plus circulaire. Alors, ce n'était pas volontaire, évidemment, c'était par défaut, par impossibilité de faire autre chose. Le début de la révolution industrielle, ça s'est fait sur une économie circulaire. On alimentait l'industrie de la chimie avec les produits, les sous-produits de l'écarissage, on fertilisait les sols avec des boues, des eaux usées, on récupérait des os pour faire des objets. Donc, on avait déjà une économie qui était beaucoup plus circulaire. Et encore aujourd'hui, dans les pays dits du Sud, qu'au niveau de développement économique moins poussé, on fonctionne beaucoup sur l'économie circulaire, sur la réutilisation de déchets alimentaires pour nourrir les animaux, sur la réutilisation de bouteilles en plastique pour stocker des sauces, des boissons. Donc ça a ses limites, ça m'amène à des problèmes sanitaires, mais l'économie linéaire est un peu une exception historique.
Qu'est-ce qui a entraîné chez les pays dits développés au niveau économique qu'on s'est lancé dans le gaspillage tout azimut ?
C'est très lié à cette volonté de développement économique qui s'appuie sur la consommation d'énergie et de matière en quantité beaucoup plus grande. Et l'économie circulaire historique avant la révolution industrielle, elle avait la particularité de fonctionner sur des quantités de matière très limitées, très faibles, qui amenaient à ses limites. Hein. Il y en avait des problèmes de famine, on avait des problèmes de malnutrition, de grosses difficultés. Et du coup, le développement qu'on connaît depuis un siècle et demi, il se base sur une consommation d'énergie, une consommation de matière beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on a un niveau de vie qui est relativement élevé aujourd'hui. C'est pour ça que vous pouvez m'enregistrer avec le micro que vous avez là entre la main, parce qu'on a tout un tas de matériaux auxquels on n'aura pas pu avoir accès sans cette économie linéaire. Donc c'est pour ça que c'est finalement si difficile de revenir à une économie plus circulaire, puisqu'on essaye de le faire sans sacrifier notre mode de vie, sans sacrifier notre confort. Et c'est là où parfois ça passe et parfois moins.
Donc on aura bien entendu que la circularisation de la matière et l'idée de créer un cycle pour les matières premières et donc réduire l'extraction et réutiliser après avoir recyclé, donc réduire également les déchets, voilà ce qui forme ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais tout ça, ça se passe dans une perspective économique actuelle. Il faut donc que le processus soit rentable, sans sacrifier notre mode de vie et notre confort, pour reprendre les mots de Mathieu Durand. Un mode de vie issu de l'économie libérale, extraction de matières premières, transformation de ces matières premières en produits, consommation des produits et poubelles, et auquel... un mode de vie auquel nous sommes tous accros. Notre confort a un prix insoutenable pour la planète, mais quand même. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, et bien sur le prix à payer, lisez l'Homo Confort, l'Homo O. H-O-M-O et puis confort comme le confort, c'est le titre d'un livre de Stefano Boni, anthropologue italien, et qui a paru en 2022 aux éditions L'Échappée. Et les industriels dans tout ça ? Et est-ce que l'économie circulaire n'est pas utilisée par les tenants de l'économie linéaire pour continuer tout en allant un petit peu moins vite ? Alors, est-ce que l'économie circulaire est un concept prometteur ou est-ce que c'est autre chose ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. Mais pour vous rendre compte par vous-même et pourquoi pas en parler aux personnes présentes, ce samedi, pour les auditeurs du direct, il y a un café réparation à La Fabrique, 5 boulevard Anatole France, le lieu dont on vous a parlé, de 14 à 17h, café réparation. C'est quoi l'idée ? Vous avez un objet à réparer, une couture à faire ? Eh bien, venez partager le café et apprendre à réparer ensemble. Petit électroménager, couture informatique, outillage, eh bien voilà, ça se passe à La Fabrique le samedi 30 novembre de 14h à 17h, qu'on se le dise. On vous rappelle que l'allumette qui est présente dans la région de Pontlieu, enfin dans le quartier de Pontlieu, rue de la Marne, est ouverte le samedi après-midi et le mercredi après-midi et qu'il se passe plein d'autres activités. On reparlera du programme un peu plus tard. Je vous conseille d'aller voir sur sarthe.demosphère.net. Et il se passe également une manifestation qui aura lieu jeudi 5 décembre 2024. À 13h30, place des Jacobins. Pourquoi ? Eh bien, pour la défense des services publics, mais aussi, là, en l'occurrence, dans le coin, pour défendre également le budget de la région alloué à la culture, au social, à la défense des plus précaires, etc. Madame Morances sabre quand même les subventions pour les missions locales. Je ne sais pas si elle comprend véritablement ce qu'elle fait. Allez, ben en attendant de se retrouver à l'une de ces interventions, à l'une de ces manifestations ou à l'un de ces événements, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mmh.
Mm-hmm.